Alors, ça va faire comme d'habitude. Par contre, c'est qu'il faut parler, on ne parle plus.
Oui, oui. Oui, non, moi. Non, qu'est-ce que je voulais. Mais vous étiez la seule famille où vous et votre mari qui s'est engagé pour les gens ou
il y a très peu de familles dans l'église. Parce que l'église ne veut faire de peine à personne.
Mais on ne peut pas comprendre comment les gens peuvent encore porter comme ça. Parce que surtout, on a madame dit oui, il faut aider les gens qui n'ont pas d'argent et qui ont je ne sais pas quoi. Et pas toujours comme ça.
Oui, mais
elle ne fait rien.
Si, elle doit le faire.
Oui.
Je pense qu'elle le fait, mais elle le fait d'une façon charitable. Parce que maintenant en français, ça prend un sens péjoratif. Ça veut dire qu'elle le fait pour quelqu'un qu'elle voit souffrir. Je crois qu'elle le fait. Mais elle ne pense pas que l'organisation de notre société est souvent responsable de l'état dans lequel se trouve la personne qu'elle aide. C'est ça que l'Église se refuse à prendre en considération. Tu vois? Mais si elle est bonne, certainement qu'elle a envie de, et qu'elle, quand on demande de l'argent pour telle ou telle chose, elle le fait, je le crois, je pense.
Mais c'est elle m'a dit elle ne donne jamais l'argent s'il y a quelqu'un qui sent à la porte.
Ah oui, c'est possible, d'accord.
Oui, mais...
Mais quelque chose, un appel, comme on dit, pour par exemple, si la... dont je te parlais tout à l'heure, il y a telle famille ou tel groupe de réfugiés ou telle chose qui a besoin, je pense qu'elle le fait, tu vois, quand elle est informée. Mais ce qu'elle ne veut pas comprendre, enfin, je crois que j'ai le droit de dire ça, ce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre, c'est que nous votons, nous élisons des gens qui fabriquent la pauvreté des autres ou qui la laissent faire, tu vois. Ne font pas le lien entre ce qu'ils voient et ce qui se passe. C'est ça qui est difficile. Et quand on veut leur expliquer, ils ferment leurs oreilles. Ils ne veulent pas entendre. On dit, oh, ce sont des excités.
Je peux aussi imaginer qu'ils veulent toujours qu'on dit merci, merci bien. Vous êtes très gentil et... C'est très bien que vous...
Peut-être même pas. Tu vois? Peut-être non. Moi, je... Loyalement, tu vois, je ne dirais même pas ça. Non. Je crois qu'ils entendent l'évangile d'une façon qui dit que oui, il faut aider les pauvres et qu'ils le font peut-être même sans attendre un merci. Mais en pensant que comme ça, ils sont fidèles. Et moi, j'essaie de dire auprès d'autres chrétiens, j'ai dit, si on n'a pas choisi si on n'a pas atteint un certain niveau d'organisation politique et sociale, de telle façon que on sait que si on n'est pas jusque-là, on fabrique des malheureux de toutes sortes, et bien on n'est pas fidèle. Je pense. Peut-être qu'on ne peut pas tous choisir la même société, peut-être. C'est possible. Mais il y a au moins un minimum. C'est pour ça que je dis que quand on vend des armes pour que notre niveau de vie soit bon, et qu'on sait que ces armes vont servir, pour moi, si je veux essayer d'être fidèle à l'évangile, je dis, je ne peux pas vivre ça. C'est tout. Alors, je demande qu'on change. Mais les gens, ça ne les gêne pas, tu vois? Tu vois? Parce que les gouvernements ont toujours dit, même celui-ci, on ne peut pas vivre sans ça. Si on ne vend pas, enfin, je ne le dis pas comme ça, mais si on ne vend pas d'armes à tel pays, alors il ne nous vendra pas de pétrole, alors on manquera de pétrole. Si on ne vend pas d'armes à tel pays, eh bien, il ne nous vendra pas de nickel ou je ne sais quel métal dont on a besoin. Mm-hmm.
Mais je ne comprends pas pourquoi il pense comme ça. C'est plus facile. Et si on ne change pas, c'est plus facile.
Oui.
Et tout le monde pense comme ça. C'est, oui. Ça ne donne pas les difficultés avec les autres. On s'entend
c'est
toujours.
Ça. C'est ça.
Bien.
Oui.
Et puis, c'est, oui, déjà les parents de on dit ça va comme ça et on a appris comme ça.
Ah oui. Oui. Et puis les gens qui sont élus démocratiquement.
Ah, oui.
Donc c'est à eux de décider. Mm-hmm. Eux, ils savent, nous on ne sait pas. Mm-hmm. C'est leur métier, c'est leur responsabilité. Oui. S'ils choisissent comme ça, c'est bien.
Oui.
Voilà. Ce n'est pas à nous, pauvres petits citoyens, à remettre tout en question. Mm-hmm. Tu vois, c'est admettre ceux qui savent. Ceux... Mm-hmm. Non, moi je dis pour moi que. Mais il y a des jours où je t'assure que c'est ça, je n'ose pas y penser. Je me dis, je n'ai pas le droit de me dire chrétienne. Mm-hmm. Et d'avoir mon train de vie assuré par tout ce qui fait du mal. Mm-hmm. Tu vois?
Mais comme ils pensent, c'est vraiment extrêmement comme ils vivent aussi. Hein. Toute la vie, et la vie est toujours la même, et qu'est-ce qu'ils pensent est toujours la même, et on ne change pas, et on ne pose pas la question si l'opinion est correcte. On ne pose pas la question si la vie est correcte, et s'il ne faut pas changer.
C'est ça, donc, oui. Hein? Oui.
Oui.
On ne remet pas en cause.
C'est dommage que la plupart des gens pensent comme ça. Ils ne sont pas mal, ils sont très gentils, et ils sont modernes. Et,
oui,
mais ils ne font pas rien.
Et comme tu dis, ils sont gentils. Ils veulent être gentils.
Mais oui, c'est vrai.
Tu vois? Mais moi, j'estime que c'est plus grave de vendre des armes à l'Afrique du Sud, par exemple.
Oui.
Hein?
Oui.
Et d'accepter ça. On n'est pas gentil quand on fait ça.
Non, mais ils sont gentils. On ne peut pas dire rien. Hein.
Non. Et c'est vrai que moi, par exemple, dans la paroisse, je suis la femme qui se met en colère. Je suis pas gentille. Tu vois?
Oui, si on dit quelque chose, on n'est pas non plus gentil.
Non.
Hein.
Non, puis c'est vrai que quand je le dis, c'est que vraiment, tu vois, je ne veux plus le supporter. Alors, ça éclate un petit peu. Mm-hmm. C'est vrai? C'est vrai que je ne sais pas le dire, mais on a essayé de le faire par un papier.
Oui, je
ensemble, tu vois. Pas moi seulement. Finalement, c'est quand même moi qui l'ai rédigé. Personne ne l'a rédigé. Enfin. Eh bien, personne n'a voulu ouvrir ses oreilles.
Et personne ne veut lire le papier. On voit déjà le sujet. Ah, oh, toujours comme ça. Et non.
Personne ne veut lire le papier.
Aussi que monsieur. Il n'a pas lu ce papier que j'avais.
Oui.
Et a seulement vu, ah, c'est sur l'ASA. Et oh non, je ne lis pas. Il a lu un peu, mais il pourrait aussi dire, ah, tu peux me donner, je veux lire tout le journal.
Et tu as entendu, c'est le. Je ne lis pas.
Ah,
tu vois
je
barrage.
Hein? Oui.
Tu vois, il ne veut pas. Écoutez, il ne veut pas savoir ce que d'autres pensent. Lui, il pense comme le gouvernement. C'est fini. Mais il ne veut même pas accepter de se poser, de dire, ah bon, ben, comment pensez, qu'est-ce que pensent les paysans?
Mais de temps en temps, je pense que les gens, ils ont un peu peur qu'ils voient que c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on dit?
Peut-être.
Et ils ne veulent pas le voir parce qu'ils ont peur que puis il doit changer et c'est pas facile.
Non.
Mais ils ne savent pas que c'est comme ça, mais un peu dans le peur. Mmh. Pour être mal.
Oui, bien sûr.
Mais je peux pas comprendre comment on peut vivre comme ça.
Mais je crois que c'est surtout qu'il pense que ça ne peut pas être autrement.
Oui.
Tu vois. Que le gouvernement a bien choisi.
Oui.
C'est toujours ça.
Oui.
Il a bien choisi.
Le gouvernement a choisi, il ne doit pas faire rien, c'est très, très facile.
Si le gouvernement veut faire deux fois plus de centrales nucléaires, c'est qu'il pense que c'est nécessaire, qu'il n'y a pas d'autre solution.
Oui, oui. Qu'est-ce qu'il pense? Moi, j'ai mes problèmes spéciaux pour moi.
Voilà.
C'est voilà. D'autres choses.
Voilà,
ce sont les problèmes du gouvernement et le gouvernement sait qu'est-ce qu'il faut faire.
Voilà. Moi, je suis à mon échelle, dans mon petit coin. Lui, il fait là où il est. C'est
dans
son
domaine.
Ce n'est pas mon rayon, ce n'est pas ma responsabilité. Alors, on essaie, mais c'était drôle hier. Ce jeune garçon, écoute, à 17 ans, il me disait, mais voyons les Français, mais faites donc quelque chose, mais c'était... Et j'ai entendu la même chose dans la bouche de responsables de mouvements allemands, tu vois. Oui. Mais j'étais même... J'admirais ce garçon qui est jeune et qui a déjà cette... cette énergie. Tu vois, mais il osait me dire, mais vous ne faites rien ou vous ne faites pas beaucoup. C'était magnifique.
J'aime aussi bien. Souvent, les gens parlent plus seulement de leurs problèmes et seulement de ce sujet où ils s'engagent et s'intéressent.
Oui.
Mais je trouve que c'est mieux s'engager et se parler un peu seulement de ses problèmes, c'est mieux comme fermer les yeux.
Oui, c'est sûr, c'est plus enrichissant, c'est plus intéressant.
Aussi, c'est souvent que les gens ils parlent vraiment seulement de ses problèmes, et ça ne fait rien.
Mais j'étais frappée justement quand on a discuté avec sortes de gens, des Allemands, des Anglais, des Autrichiens. Combien les Allemands sont beaucoup plus ouverts que les Français à ces problèmes. Enfin, nous nous réjouissons parce qu'au moins il y a des pays. C'est déjà mieux engagé dans l'inflexion.
C'est vrai. Pendant les dernières années, il y a de plus en plus de gens qui sont très le problème d'énergie et qui sont très actifs, c'est vrai.
Alors maintenant, il y a tout le problème des fusées américaines qu'on veut installer. Alors, on nous a dit, mais pourquoi vous ne bougez pas, vous les Français? Vous ne vous rendez pas compte que ça vous concerne aussi? Moi, j'ai dit, mais si, c'est pas pour ça. Mais les militants allemands ne comprenaient pas que les Français soient aussi inertes. Tu vois? Ils croyaient que nous cherchions, nous pourtant qui voulons faire quelque chose, nous cherchions des excuses. On disait, mais non, mais c'est la réalité. Et c'est dommage, je n'ai pas le texte, mais je vais l'avoir dans quelque temps. À la fin des journées du... Il y a eu un appel qui a été lancé de la part de tous les participants européens, japonais, d'Amérique centrale, mais surtout européens, ça, contre justement l'extension des armes nucléaires. Alors, cette fois, on n'a pas voulu dire on est contre ça, c'est vrai, mais on a dit on va choisir quelques points précis. Et on commencera par ça. Alors, si c'est comme je pense, je n'ai pas le texte, on pensait qu'on dirait on veut être contre les armes, enfin d'abord contre les armes qu'on appelle tactiques, c'est-à-dire les armes nucléaires qui permettent une guerre, disons, limitée. Les autres, on les appelle des armes stratégiques. Et toujours, on dit, ce sont des armes dont on ne se servira jamais. Bon. Mais celles-ci, les armes tactiques, c'est justement pour s'en servir. Alors, il y a les fusées Pershing en Allemagne, que les Américains veulent mettre en RFA. Il y a les fusées, pareil, SS-20, il s'appelle, en Russie. Il y a la bombe à neutrons en Amérique, qu'on fabrique en Amérique, qui pourrait servir. La bombe à neutrons que la France continue de préparer. En ce moment, on fait des recherches, tu vois. Alors on demande qu'on arrête ça. Et puis, des bombes qui peuvent aller sur des avions français ou, tu vois, ou sur des chars. Alors, on se demande, je te dis, je ne sais pas si le texte sera comme ça, mais c'était ce que nous souhaitions. Et en Allemagne et partout en Europe, les gens pouvaient demander la même chose. Et nous, en France, demander aussi contre ce qui se fait en France. Alors, on va voir. Mais je ne sais pas, tu vois, les... si je leur propose un texte comme ça, je ne sais pas s'ils vont signer. Ce n'est pas si. Mais il faut que je le signe.
Oui, oui, c'est vrai.
Voilà, ben, je crois que nous allons pouvoir aller manger. Je vais essayer. Oui, tu veux bien.
Famille, quand... À Bayonne, on a dormi dans un hôtel marocain.
Ah bon?
Et là, et puis aussi à Cannes. Mais c'était pas très bien le couscous à Cannes.
Non, non. C'était pour les touristes.
Oui,
à Bayonne, et... c'était mieux. Un hôtel marocain, tu dis, à Bayonne.
Oui. Ou pas à Bayonne, dans la région de Bayonne.
Attends, il y a un couteau qui m'avait servi. Oui, c'est celui-là. Pardon.
Oui, c'était très bien. Mais le restaurant à Cannes n'était pas très bien. Au début, il fallait, on a attendu une heure. C'était très... Et moi, je n'aime pas manger la viande. Et je voulais... puis on a dit, mais c'est toujours très, très beaucoup le couscous. Et on prend... pas pour moi et je peux manger.
Ah oui, oui, les portions sont abondantes, oui.
Mais non, ça n'irait pas et oh, c'était un peu.
Ah bon, alors tu as dû prendre une ration aussi. Et il n'était pas bon celui-là.
Non, pas.
Parce que c'est une ville de touristes.
Oui. Il y avait des rues seulement avec des restaurants. Et japonais, vietnamais,
ah oui?
Grec, ah je sais, tous les pays on peut imaginer.
En effet, oui. Moi je connais peu, Cannes. Je connais seulement. Nous sommes passés en auto le long de la Croisette, donc. C'est la grande avenue, puis c'est tout.
Le premier soir, on a fait une promenade sur la Croisette et on s'assied sur un mur et on a vu les gens. C'était très drôle.
Vous avez regardé.
Regardez les gens. On peut, toujours, ce sont les Américains, ce sont les Allemands, ce sont les Français, ce sont les Anglais.
Ah oui, oui, on voit bien.
Oui, oui.
Ah oui, avec le style.
Oui, tous les gens étaient très, très élégants et voulaient toujours montrer les vêtements.
Ah bon? Oh là là!
Je trouve un peu ridicule. Aussi les vieilles dames sont dans la en short ou même pas.
Et sur la plage il y a du monde.
Ah oui. On n'a pas bendé à on ne sait pas bendé parce qu'il y a beaucoup de monde. Et il y avait seulement une très petite plage où on pourrait se baigner gratuit. L'autre partie était des hôtels et où
tout, ce sont toutes des plages privées.
Oui.
Des hôtels où il faut payer.
Oh là là. Oui, c'est pas...
Ça, c'est horrible.
Oui.
On dit donc. À Nice, c'est quand même différent. Une fois, nous nous sommes baignés à Nice. Eh bien, la plage publique est quand même grande. Et elle a des douches d'eau froide, bien sûr, mais elle a des douches pour se rincer comme ça sur la plage. Alors ça, c'est agréable.
Ah oui.
Il y a du monde, mais enfin, quand même, je pense que c'est beaucoup plus grand qu'à Cannes. Mais tu sais, ce sont des régions où nous n'allons jamais avec mon mari.
Moi, je voudrais jamais...
Je suis passée une fois à Cannes, tu vois, dans toute ma vie.
J'aimerais jamais passer mes vacances à Côte d'Azur. J'aimerais jamais y aller.
Non,
je n'aurais pas du tout, mais c'est très intéressant.
Est-ce que tu veux encore un petit
Non,
non, tu n'aimes pas beaucoup.
Oui, non, c'est
ça. Ça suffit. Je vais peut-être en reprendre un petit peu, je voudrais. On finisse bientôt.
Et à la fin, je ne pourrais pas non plus voir, je n'aimerais pas non plus voir les villas. Ils sont très beaux, mais je préfère d'autres maisons.
Oui.
Ils sont plus vieux et il ne faut pas être tout très exact. J'aime bien si la pelouse est un peu plus haut et tout ça.
Oui, oui.
Et j'aimerais pas non plus voir les villas toujours la même et toujours avec piscine. Et,
piscine au bord de la mer, oui. Terrible.
Et tous les gens qui sont élégants et les vêtements plus chers.
Et l'hiver dans ces... Dans ces villes de la côte, il n'y a que des personnes âgées.
Mais ma soeur, madame, elle a dit qu'il y a toujours du monde à Cannes. Parce qu'il y a aussi avec du cinéma.
Ah oui, c'est vrai, le festival, oui.
Et
oui.
Il y a toujours du monde. Et il ne fait pas froid, l'hiver, toujours.
Oui, oui.
Mais à Montpellier, il n'y a personne l'hiver.
Oui. C'est quand même une ville universitaire, Montpellier, donc il n'y a pas énormément de monde l'hiver.
On a vu sur la plage.
Sur la plage, il n'y a personne.
Oui, seulement avec des départements pour les touristes.
Ah oui, c'est vilain ça aussi.
Oui.
Oh oui. Ah, ce n'est pas facile. Ça y est,
ça va.
Merci. Oui, tu peux prendre. Et puis toi, je peux peut-être laisser un petit peu de coquille. Alors, tu vas bientôt repartir en Allemagne.
Oui, le mardi.
Mardi.
Oui, je vais aller à Paris.
Ah oui, c'est vrai.
Et
tu vas rester un petit peu à Paris.
Oui, lundi, l'après-midi, je vais visiter le centre Georges Pompidou pour une fois. Le soir, je vais aller chez la tante. Dormir et le mercredi je vais aller à Versailles et le jeudi je vais aller en Allemagne.
Ça fait encore 5 ou 6 jours quand même,
comme ça. Pas une semaine.
Oui, c'est intéressant de profiter de Paris quand même.
Ça fait loin que j'étais ce sont 5 semaines et demie à peu près. J'espère que je peux encore traduire l'allemand.
Oh oui. Est-ce que tu veux un peu de sel ou ça va?
Non, ça va.
Non, ça va. Bien sûr que tu parleras encore allemand.
Et puis j'ai encore 3 jours à peu près de lundi. Il me faut aller à l'école.
Je crois que vous avez seulement 6 semaines de vacances hein, l'été.
Et je trouve que c'est assez. 6 semaines. Ici, on a 2 mois et demi. Je trouve que c'est très beaucoup.
C'est trop beaucoup.
Parce que on peut travailler un peu et puis on peut visiter un pays.
Mais attention, il vaut mieux la laisser. Voilà, elle s'en va.
Mais je peux imaginer qu'à la fin, on ne sait pas non plus quoi faire. Et je préfère avoir une semaine en octobre.
Oui, d'autres vacances à un autre moment. Oui. C'est vrai. Je pense que l'enseignement en Allemagne est beaucoup mieux organisé qu'en France.
Ah oui, d'accord. J'ai l'impression que chez nous, on peut mieux apprendre les langues.
Oui. Et puis de... Je crois que dans les écoles secondaires en Allemagne, le taux de réussite est beaucoup plus fort qu'en France. Quand vous passez le baccalauréat, il y a très peu d'échecs. Presque tout le monde réussit le baccalauréat.
Non, il y a toujours 3, 4 qui ne réussissent pas.
Sur 100? Non, sur combien?
Ah. Oui, sur 100. Non, sur 200 ou 300.
En France, tu as 32% qui ne réussissent pas. 32, 30, tu vois, c'est toujours 33. Alors, ce n'est pas normal.
Ce sont pas beaucoup chez nous. Et si on a, nous avons seulement un bac, pas deux. Et si on n'a réussi pas, on peut faire, on peut essayer encore une fois après les vacances d'été, en septembre.
D'accord,
octobre.
Une autre session.
Oui. Et puis on peut encore essayer une fois l'autre année.
Oui. En général, les gens réussissent.
Oui. Et puis les professeurs, ils sont très gentils. Qu'est-ce qu'il faut apprendre?
Ah oui, les professeurs aident beaucoup. Enfin, celui qui
pas
a de la peine.
Pas tous les professeurs, mais d'accord. Je pense.
Mais en général.
Oui.
Tandis qu'en France, quand les élèves ne réussissent pas, les professeurs, presque tous, pensent que ce n'est pas leur faute, que c'est seulement la faute des élèves. Ce n'est pas normal.
Ça dépend aussi un peu du professeur, s'il ne peut pas expliquer, ou s'il n'aime pas l'élève.
Mais en France, on accepte trop justement l'échec scolaire. C'est grave. À l'école, j'ai vu un film français qui était sur l'école française. Et c'était un jeune homme qui a fait ce film. Il n'a pas terminé l'école.
Ah oui.
Et j'ai vu les professeurs et c'était très comme chez nous en 1960 à peu près.
Ah oui.
C'était très
sévère.
Oui.
Sévère.
Oui.
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 Et il faut apprendre les choses et.
Ah oui, oui, apprendre par cœur.
Les élèves n'étaient pas du tout motivés.
Oui, c'est vrai.
Chez nous, on a plus de moyens pour faire quelque chose. On peut regarder des films, on a des images, des photos. On peut aller dans un.
Vous avez des bibliothèques.
On a essayé de changer.
Vous avez beaucoup de documents.
Oui.
Et est-ce que tu veux encore des choses là?
Les professeurs ont essayé de faire un peu le changement parce que c'est pas très bien. Si on lit dans. On a. C'est souvent dans les langues qu'on lit en texte. On pose des questions et des vocabulaires et on parle. Et on pose des questions et. On parle de ce texte et c'est terminé, on prend un autre texte et on.
Oui.
Et c'est toujours la même chose et c'est pas très bien. Si on peut changer.
Bien sûr.
Moi, j'ai 5 heures de français pendant la semaine.
Ah oui.
Et ce sont le lundi, j'ai 2 heures et on va dans un.
Laboratoire.
Et on écoute les.
Oui,
c'est le radio français et interviews et tout ça.
Ah oui, c'est bien, c'est vivant au moins.
C'est bien pour comprendre.
Dis-moi, tu as vu les fromages que j'ai achetés ce matin? Est-ce que tu veux?
Oui.
Lequel tu aimerais ou lesquels tu veux? Qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi.
J'aime le fromage. Un peu jaune
avec les trous.
Oui,
le grand morceau que j'ai acheté.
Oui,
le gruyère.
Oui,
tu aimes celui-là.
Oui,
et le dernier que j'ai, tu sais, les deux que j'ai acheté, tu aimes.
Oui,
bon, alors on va mettre ça. Fromage de chèvre du Larzac. Alors tu peux goûter tout. Voilà.
Comment est-ce qu'on appelle ça?
Gruyère. C'est le nom parce que il vient de. Enfin, le premier fromage a été fait en Suisse, dans la vallée de Gruyère. C'est une petite vallée.
C'est la même?
Ah non. Ça, je pense. Ça, c'est du chèvre aussi. Non, ça, c'est de la vache. C'est celui qui l'a dit qui serait bon, monsieur. Je te propose du pain.
Non, ça va. C'est comme ça.
Ce n'est pas beaucoup, tu sais.
Je vais essayer.
Et puis ça, c'est le fromage du Larzac, alors. Merci.
Il me fait envie. Il faut couper ça.
Non, tu grattes seulement. J'aurais dû le faire, moi.
Et normalement, vous achetez chez un autre fromage.
Oui, il n'est pas là. Chez un autre fromager. Mais qui vend un peu les mêmes choses quand même. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est différent suivant la fromagerie qui a fait le fromage.
C'est vrai.
Oui, il nous a fait goûter un autre gruyère. Qui coûtait presque la moitié en plus.
Et pourquoi ça? Je sais pas.
Excuse-moi, j'ai gardé le. C'est tout.
Ce ne sont pas les mêmes vaches.
Oh, je voulais encore raconter de notre le des heures, mais on ne parle pas des heures à l'école, et les sons.
Les horaires.
Ah, les horaires.
Les horaires, c'est je commence à quelle heure je
non, finis le, on a...
Les cours.
Oui, des cours de français. Et l'autre jour, on, les autres cours, on a des textes.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est... On est, notre professeur, elle essaie toujours que nous discutions. Mais c'est très difficile parce qu'il y a toujours seulement 4 personnes à peu près
qui participent.
Oui. Et ouais. Les autres disent toujours oh, on, c'est pas très intéressant, on ne peut pas changer un peu, mais si on veut discuter, on ne dit rien.
Ah,
c'est,
oui.
C'est un très grand problème.
Ah oui, aussi, c'est juste, c'est vrai.
C'est aussi dans l'autre cours hein, que les gens ils ne disent rien.
Ah oui. C'est difficile de faire parler tout le monde pour un professeur. C'est très difficile.
Mais c'est bête des élèves, je trouve qu'ils veulent qu'on change un peu, mais ils ne disent rien.
Oui. Ah oui. C'est dommage.
Oui, et si le professeur n'est pas là, là, il dit toujours « Ah, c'était terrible aujourd'hui. » Mais si elle est là, il ne dit rien.
Oui,
rien,
oui,
hein.
Oui.
Comme dans la vie.
Oh oui. Mais quand même, vous apprenez beaucoup mieux les langues en Allemagne qu'en France. Moi, j'ai étudié 7 ans l'allemand en classe. Je pouvais quelquefois traduire Goethe, mais je ne savais pas parler du tout. Maintenant, j'ai beaucoup j'ai tout oublié. Mais on n'apprenait pas à parler. C'est dommage.
Les premières...
J'ai toujours de la littérature.
J'avais aussi un professeur qui a seulement fait la grammaire avec nous.
Ah oui.
C'est aussi pas...
C'est
bien voir, savoir la grammaire, et... mais c'est horrible. Hein.
C'est horrible, oui. Non, expliquer la grammaire après, quand on a déjà, quand on peut déjà parler. Ah oui, c'est du pain de seigle. Oui. Il vient de Suisse. Tu peux, oui. Mange un peu de fromage avec.
Non,
non, comme ça. Tu ne veux plus de fromage?
Non, merci.
Alors, je vais chercher des... Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Si j'ai fait mon bac, je veux aller au Japon.
Ah oui?
Pour plusieurs mois, parce que mon oncle,
oui,
je l'ai déjà raconté.
Tu m'as dit oui.
Je veux lui visiter et
je veux lui
rendre une visite.
Rendre visite.
Je veux voir comment les gens ils sont là.
Et ah oui.
Peut-être je peux travailler un peu. Parce qu'il travaille à l'université.
Sers-toi. Ce sera intéressant. Et alors, tu vas parler japonais un peu?
Non. Peut-être après, mais...
C'est difficile.
Ah oui, très difficile. Et puis, je sais pas, j'aimerais bien faire quelque chose avec des arts.
Ah oui.
Mais pas seulement créatif. Aussi avec ma tête, combiner un peu, vous comprenez?
Oui, pas seulement avec les mains.
Oui, pas seulement. Mais j'aimerais, c'était possible de devenir professeur pour des arts, mais je ne veux pas devenir professeur, au moment pas.
Ah oui, d'accord. Oui.
Mais peut-être.
Il n'y a pas en Allemagne peut-être quelque chose qui ressemble à ce qui se fait en France dans des, on dit les maisons des jeunes. C'est animateur alors, de, tu vois, pas professeur, mais animateur d'atelier où les enfants viennent pour essayer de faire de la poterie ou de la peinture ou de la musique ou quelque chose comme ça. C'est déjà, oui, c'est moins rigide que professeur.
J'ai aussi entendu qu'on peut faire des thérapies avec les enfants.
Ah oui.
On les laisse faire en poterie, on les fait peindre et voir ce qu'il y a.
Oui.
C'était aussi très intéressant.
Ça, c'est intéressant. Oui. C'est sûr.
Mais si je ne sais pas, si je ne suis pas encore sûre, je peux travailler un peu. Je peux aussi essayer et puis je trouve que ce n'est pas le, le travail pour moi. Puis je change.
Changer.
Tu changes
de direction.
J'ai assez du temps. Ça m'est égal si je termine avec 20, 21 ou 26 ou 27.
Ça ne fait rien. Tu as le temps.
Oui.
Mais c'est bien. C'est agréable de se sentir comme ça du temps.
J'aime bien la littérature, mais je ne veux pas faire une étude de littérature parce que c'est seulement avec la tête. Et je veux aussi faire d'autres choses, un peu créatives.
Je comprends,
Et c'est très difficile. J'aimerais bien trouver le milieu. Je veux faire beaucoup de voyages pour voir le monde.
Oui.
Parce que puis j'ai du temps. Après, je ne sais pas si j'ai du temps et qu'est-ce qu'il y a encore. Et je veux faire.
Oui, c'est intéressant, c'est sûr. Mais tu as une chance d'avoir un oncle au Japon.
Ah oui, c'est vrai.
C'est une occasion unique.
C'est vrai. Ma tante, elle est japonaise. C'est pourquoi je peux vraiment voir les...
Ah oui. Ah, elle est japonaise,
d'accord. Oui. Je ne suis pas comme un touriste parce que je n'aime pas visiter un
pays. De l'extérieur.
Oui.
Ça, c'est chouette.
Elle travaille beaucoup.
Quel genre elle fait?
Ma tante, elle est aussi à l'université et elle donne des cours pour plusieurs langues.
Ah oui.
Pour l'anglais et l'allemand. Et on traduit des textes. Mon oncle, qui est professeur de théologie, et il est aussi pasteur de la paroisse. Et mes cousins, ils ont beaucoup de travail à l'école, et c'est très dur. Et il doit rester à l'école jusqu'à 5 heures à peu près. Il va toujours faire des tests.
Oui, passer des tests.
C'est très très souvent. Chaque mois et chaque semaine, il y a des tests très durs. Et tu dois travailler. Mon cousin, il travaille très souvent jusqu'à minuit. C'est très dur. Aussi, s'ils sont en vacances, ils doivent toujours faire des... Ils ont des petits... Il doit écrire qu'est-ce qu'ils font toute la journée. Et ils ont aussi plusieurs... ils doivent faire quelque chose pour l'école. Ils doivent avoir lu plusieurs livres et avoir écrit plusieurs choses.
Même pendant les vacances.
On peut voir.
Le japonais. Mmh. Allez, nous finissons les fraises.
Ah, oui.
Même les japonais, oui, ils sont... Alors, ils sont très durs au travail, les japonais. Mmh. Il faut réussir le travail, mmh. il faut que le Japon réussisse. Mmh. Mmh.
Mais je le trouve très intéressant pour voir.
Oui, c'est intéressant, c'est mmh. vrai. Mmh. J'ai discuté avec un japonais. D'abord, il y avait 17 japonais qui sont venus mmh. du Japon. Mmh. Parce que 7 d'entre eux sont des paysans. Mmh. Les autres sont des gens qui soutiennent les paysans. Mmh. Et l'action des paysans, c'est de résister à l'extension d'un énorme aéroport du côté mmh. de Tokyo. Mmh. Ça fait 15 ans que ça dure. Et ils disent, mais il faut nous laisser vivre, nous, les agriculteurs. D'abord, le Japon ne produit plus que 40% de ce qui lui est nécessaire. Mmh. Et ce que le Japon importe pour manger, c'est-à-dire 60%, mmh. c'est ce qu'il prend à des pays pauvres et qui n'ont pas assez à manger. Mmh. Alors, ils veulent, ils souhaitent que beaucoup de Japonais comprennent cette, mmh. Cette situation. Mmh. Alors, ils résistent comme mmh. ils peuvent.
Oui.
Alors, avec les Japonais, j'ai peu... Ces Japonais-là, j'ai peu parlé. Mmh. Mais j'ai parlé avec un qui, en ce moment, habite à Paris. Il est à Paris pour... 4 ou 5 ans, je crois. Mmh. Il est responsable de syndicats japonais mmh. et il est en France pour avoir un contact avec les syndicats français mmh. et même peut-être d'autres, mmh. anglais, allemands. Bon. Et il avait lu sur une brochure, simplement une revue, l'annonce des rencontres internationales pour la paix et il était venu, comme ça, mmh. avec ses deux enfants. Pendant que sa femme était à Nice, il nous expliquait pour suivre un cours de perfectionnement en langue française. Mmh. Et on s'est trouvé dans le même groupe de réflexion un matin. Mmh. Et puis il a dit, ben, je suis japonais, alors je ne sais plus mmh. quel était le sujet. Mais enfin. Mmh. Et puis après, alors nous avons discuté, puis nous nous sommes retrouvés souvent. D'abord on a cherché à le retrouver et on a quelquefois pris nos repas ensemble pour profiter de mmh. tout ce qu'il pouvait nous raconter. Mmh. Il nous dit qu'au Japon, il ne comprend pas le système justement d'échec en France, de l'échec de l'école, que je te dis mmh. que mmh. Les gens ne réussissent pas le baccalauréat, ne réussissent mmh. pas à des tas de choses. Il dit non, au Japon, tout le monde doit réussir. Et mmh. on a envie que tout le monde mmh. réussisse. Mmh. Il n'y a pas la concurrence comme, mmh. comme dans le système français. Par contre, il dit que il regrette, il lui semble à lui, que parce qu'on veut que tout le monde réussisse, quelquefois on peut freiner mmh. quelques-uns qui auraient fait encore plus, encore mmh. mieux. Mmh. Bon. Mais il nous a dit aussi que les premières années du travail, mmh. quand on commence un travail, on ne tient pas compte du tout des diplômes. Mmh. Et quelqu'un qui a une licence ou je ne sais quel, mmh. quel diplôme commence comme n'importe comme un autre qui, mmh. qui est sorti de l'école à 16 ans.
Ouais.
Et d'après lui, c'est seulement au bout de une douzaine d'années, vers 32, mmh. 35 ans, que les différences se voient. Mmh. Mais alors, ce n'est pas parce que celui-là a un diplôme et l'autre ne l'a pas. Ils ont fait tous les deux à peu près les mêmes travaux. Il mmh. paraît qu'on change beaucoup de travail, la formation. Moi, je trouve que c'est assez juste.
Mmh. Moi, j'avais vu un film.
Tu termines, mmh. s'il te plaît, regarde tes petites phrases.
Et dans ce film, on a montré que il est japonais et commence dans un firme, mmh. dans un bureau et mmh. il y reste toute la vie. Et la firme, c'est comme une famille. Mmh. On y vit comme une famille. Oui. Et c'est pourquoi c'est pas du tout important d'avoir des documents et,
oui.
On ne travaille pas pour avoir de l'argent.
Non.
Pour vivre et pas pour vivre lui-même, mais aussi que les autres puissent vivre.
C'est ça, c'est ça.
Et c'est énorme.
C'est l'ensemble. Oui, oui, oui.
Et souvent, les gens, ils ont seulement une ou deux semaines de vacances en année. Hein.
Mm-hmm.
C'est énorme. Mais ils sont contents et s'ils ont terminé le travail de la journée, ils mangent ensemble et c'est très familier aussi.
Oui, oui. Seulement, je pense qu'il y a quand même un danger. C'est que la vie familiale se trouve quand même, est moins bonne de cette façon. Si les hommes sont avec leurs camarades de travail, ils ne sont pas à la maison avec leurs ou avec leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, les autres amis. Et puis surtout, il y a comme une idéologie dans la tête maintenant que tout ça c'est très bien.
Mm-hmm.
Et que le modèle japonais est le meilleur.
Mais c'est aussi les gens qui sont comme ça, c'est le caractère des gens japonais.
Oui.
On ne pourrait jamais faire cette modèle ici en France ou en Allemagne, c'est impossible.
Non. Oui, c'est un caractère. Mais je crois que ça ressemble à ce que j'avais entendu dire, ce que j'avais lu il y a très longtemps, il y a 20 ans au moins, sur la Chine, sur les Chinois, tu vois. C'est une théologienne française qui avait écrit ça. Qui s'appelle, elle s'appelait depuis elle a épousé un Anglais, elle s'appelle et elle disait que, alors elle parlait des chrétiens chinois, mais elle avait essayé de comprendre leur situation par rapport au communisme. Ça ne faisait pas longtemps que le communisme était installé, et elle disait qu'à l'époque en tout cas ça ne posait pas tellement de problème. Parce que les Chinois devenaient facilement chrétiens communistes à cause d'un caractère qu'ils ont, mais comme ça dans leur tradition, qu'elle appelle le conformisme. Alors en français, c'est un mot qui n'est pas bon. Le conformisme, c'est péjoratif. Tu vois. Ça veut dire, ils se conforment à ça. Là, c'était au contraire une démarche très positive. C'est de toujours vouloir rester le semblable de ses frères. Alors peut-être qu'au Japon, ça ressemble un peu.
Mais je trouve ça intéressant pour voir.
Oui, c'est sûr que c'est intéressant. Mais c'était aussi intéressant, tu vois, d'entendre ces paysans dire « nous désirons que nos compatriotes comprennent que nous n'avons pas le droit d'acheter 60% de ce que nous mangeons. D'acheter, parce que justement, c'est un vol que nous faisons. Nous privons d'autres qui ont besoin de ça. Parce que c'est vrai sûrement pour ceux qui fournissent au Japon, c'est vrai pour ceux qui fournissent à la France. Il y a des pays, par exemple, un que j'ai bien étudié, le Sénégal, qui est en Afrique, qui n'est pas loin. Tu as des régions du Sénégal qu'on appelle le Sahel, qui sont à la limite du désert. Et chaque année, d'ailleurs, la zone sèche, tu vois, s'agrandit.
On n'a pas des arbres.
Et les gens meurent de faim. Mais au Sénégal, depuis quelques dizaines d'années, ils poussaient de l'arachide, des cacahuètes, tu sais, pour faire de l'huile. Eh bien, les gouvernants du Sénégal, d'accord avec les gouvernements français et autres, ont orienté leur politique agricole pour que les Sénégalais cultivent toujours plus d'arachide pour la vendre donc aux pays de l'Ouest, pas cher d'ailleurs. Et pendant ce temps, ils ne pouvaient plus cultiver ce qui leur était nécessaire pour manger. Ce qu'on appelle les cultures vivrières. Et ça, c'est un phénomène qui existe à peu près partout dans le monde. les gens pensent qu'il faut faire partie du marché, ce fameux marché,
oui,
tu vois, qu'il faut vendre des choses, puisque de toute façon, il y a des choses qu'ils ne fabriquent pas, donc ils veulent acheter, donc ils veulent en vendre. Et souvent, ils sacrifient leur propre agriculture pour vendre des choses qu'ils cultivent, mais qui les empêchent de cultiver ce qu'ils pourraient manger. Alors bon, je connais assez bien ce cas du Sénégal, mais en Amérique centrale en ce moment, c'est le problème de la canne à sucre, c'est le problème du coton, c'est le problème du café. On utilise les sols, mais pour vendre des choses, et pas pour cultiver ce qui sera mangé. Et puis quand il y a un phénomène d'industrie, c'est encore plus terrible parce qu'on quitte la terre, et puis on va autour des villes pour travailler un petit peu, gagner un petit peu et vivre comme des clochards. C'est assez terrible. Alors ces paysans japonais posaient tous ces problèmes. Et c'était par solidarité avec ce qu'on appelle le tiers-monde, enfin tous ces pays pauvres, qu'ils résistaient aussi. Et c'était très émouvant. Mais il y a eu des choses terribles au Japon, dans la répression de ces groupes. J'ai un livre, je ne lis pas le japonais, bien sûr, mais je retrouve des photos, je vais te montrer des photos que nous avons vues dans un film. Les enfants se mettaient devant le bulldozer, quand le bulldozer vient pour retourner la terre, pour niveler. Les enfants étaient devant comme ça. Et puis nous avons vu aussi quand... il est noir quand même, pourtant je crois qu'il a mis beaucoup d'eau. Je vais chercher un petit peu d'eau chaude si tu veux pour ajouter.
Non, je peux essayer.
Tu peux essayer comme ça, si ça va.
Non, ça va.
Ça va.
Alors tu pourras prendre ma couronne.
Oui, il est très noir, mais je n'ai pas mis beaucoup. Tu prends du sucre, non?
Non.
Il y a aussi un moment où, je ne sais pas si c'est là, quand on vient démolir la maison d'une vieille femme qui était restée. Les CRS, comme les CRS, tu vois, les policiers, sont venus, ils l'ont frappé, ils ont cassé les dents, et puis ils ont cassé toute la maison sans enlever les casseroles, les habits, rien.
C'était un film japonais.
Oui, bien sûr, c'était fait par un amateur, un paysan qui avait fait tout seul, qui avait fait des prises de vue. Je ne sais pas si c'est la vieille dame. Je ne crois pas. Ben là, tu comprends même un peu l'anglais alors.
Ah oui,
c'est mieux que moi, tu vois.
Cette année, je vais aller à l'école.
Comme ça, tu pourras lire. Comprendre mieux. Moi, j'ai acheté surtout pour comme soutien au.
Mais vous avez aussi l'anglais à l'école.
Pas obligatoirement. C'est ou anglais ou allemand. Et puis une autre langue. Alors, c'est souvent anglais ou allemand, mais peut-être. C'est rare, mais peut-être espagnol, portugais, russe, quelquefois arabe, mais dans un lycée. Le russe aussi, c'est dans un ou deux.
Qu'est-ce que vous avez?
Eh bien, moi, je suis très vieille, alors je n'avais pas de langue, j'avais seulement l'allemand. Et puis après, il y a 20 ans maintenant, j'ai appris l'arabe, mais pas l'arabe littéral, pas l'arabe du Coran, l'arabe que parlent les gens ici.
Et aussi
l'arabe dialectal.
L'arabe qu'on parle à Maroc,
alors c'est celui qu'on parle en Algérie. Celui qu'on parle au Maroc ressemble, mais c'est quand même différent. et je parlais beaucoup avec des femmes algériennes du côté de la Tunisie.
Ah oui. Il y en a beaucoup ici.
Oui, bien sûr.
Ah, oui, il y en avait beaucoup, beaucoup.
Et j'ai une amie depuis 20 ans. Vraiment une amie. Puis je connais beaucoup d'autres, mais enfin, elle, c'est une amie. Et quand j'ai commencé d'aller chez elle, je parlais un peu arabe et elle pas du tout français. J'allais une fois par semaine, c'est quand ma petite fille, quand ma plus petite fille était petite, ça fait même bientôt 25 ans. Je n'ai pas travaillé pendant 5 années. Et le mardi après-midi, j'avais même une autre petite fille avec nous à ce moment-là. Je laissais les petites à une dame qui venait s'en occuper, puis je partais chez mes amis. Ce n'était pas loin, c'était à 12 km par là, à la campagne, le village. Et je passais tout l'après-midi avec elle, mais c'était vraiment une période intéressante.
Et maintenant, vous avez encore contact avec elle?
J'ai des contacts avec elle, oui, surtout avec elle.
Ses enfants sont grands.
Ah oui. Et j'espère qu'un jour, ils repartiront en Algérie quand son mari aura fini le travail et nous irons chez elle. Oh, nous avons eu beaucoup d'amis arabes, mais beaucoup sont repartis en Algérie.
Ils ont terminé le travail.
Oui, ou bien quand la guerre a été finie, ils sont repartis. Il y en a qui ont choisi de rentrer chez eux et c'est très bien comme ça.
Intéressant.
Oui, c'est intéressant.
J'aime bien si on a des amis étrangers, parce que c'est toujours très différent.
Puis moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à apprendre la langue arabe. C'est très difficile, mais on comprend la mentalité des gens, on comprend la pensée.
C'est toujours un peu avec la langue.
Les expressions. Les salutations. Tout est imprégné de la mentalité des gens. Et justement, elles étaient un petit groupe de femmes qui vivaient comme ça dans un village et elles ont été très touchées que ce soit moi qui apprenne leur langue. J'avais juste commencé un petit peu avant de les connaître. Elles ont été très touchées que ce soit moi qui apprenne leur langue et pas toujours les Algériens qui doivent apprendre le français.
Parce qu'ils sont ici dans un pays.
Puis même dans leur pays aussi, puisque l'Algérie avait été une colonie française pendant 150 ans. D'habitude, c'était toujours eux qui devaient aller au-devant du français, mais jamais le français qui faisait un pas vers eux. Puis j'ai appris des tas de choses avec elle. Et il y avait une chose, il y en avait une qui venait vraiment d'un village de montagne qui était très, comment dire en français, très fruste, tu vois. Et puis elle avait un petit garçon qui était infirme, qui est mort d'ailleurs à 6 ans là-bas. Et puis elle a eu un bébé qui était magnifique, un petit enfant mais qui était beau, splendide. Mais elle avait un mauvais mari, celle-là, ça arrive chez les Algériens aussi. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait rien pour ce gosse. De toute façon, avec la religion musulmane, on ne prépare rien pour un enfant. On achète tout ce qu'il faut, on fait tout ce qu'il faut après. Mais jamais avant. Parce qu'on pense qu'il y a comme des démons, ils disent le mauvais œil, tu vois, l'œil mauvais, qui va regarder, qui fera du mal au petit. C'est de la superstition, maintenant. Mais même lui, après, il n'a pas acheté. Alors j'ai dit, mais tout de même, je vais pouvoir lui apporter des choses, ce bébé. Alors mes amis m'ont donné, moi j'avais encore de la layette, mes amis m'ont donné. quand j'allais, quand elle savait que je venais le mardi, elle habillait le bébé comme il faut. Mm-hmm. Mais si une fois je passais dans la semaine, qu'elle ne pensait pas, oh, c'était horrible, affreux, il était toujours dans du linge mouillé. Mm-hmm. Puis tu vois, quand c'était mouillé, elle en mettait encore un après pour qu'il soit sec. Et puis, bon. Donc vraiment, celle-ci, elle est très particulière. Tu vois, les autres ne faisaient pas comme ça. Mm-hmm. Mais je pensais quand même, alors là, pour cette... Je crois que c'est normal, je peux lui apprendre quelque chose. Moi, je ne serai pas la femme qui sait, mais... Et puis, un jour, il dit, eh ben zut, je laisse faire. D'abord, elle a eu le courage, elle a eu le courage. Je ne parlais pas encore beaucoup arabe, je ne comprenais pas beaucoup de ce qu'elle disait. Mais ce gosse avait, je ne sais pas, 5-6 mois, et c'est toujours très beau, il avait des beaux yeux noirs, et des splendides. Et moi, j'avais une petite fille qui était souvent malade. Alors quand un jour je lui ai dit quelque chose, elle m'a dit, mais ta fille, elle est toujours malade. Voilà, ça m'a été une leçon. Et j'ai dit, bon ben, mille cent de puériculture avec c'est fini. Je ne dis plus rien, je ne fais plus rien. Et c'est à partir du moment où dans ma tête, je ne voulais plus dire quelque chose. C'est à ce moment-là aussi que j'ai connu les autres, que celle qui est devenue mon amie. C'est à partir de ce moment-là qu'alors les autres m'ont demandé. Mais jamais moi qui disais. C'était une leçon extraordinaire.
Bon, c'est pas facile de laisser faire, mais c'est important.
Tu prendras, si tu veux. Oui, c'est pas facile de laisser faire, mais c'est important. Mais j'avais apprécié quand elle m'avait dit, mais ta fille, elle est souvent malade. Alors, je dis, mon fond, elle a raison, qu'est-ce que je viens de lui dire, moi? Et quand son petit est mort, il avait 6 ans, on avait réussi à convaincre le papa et la maman, mon mari était allé, moi j'étais allée plusieurs fois, de l'emmener à l'hôpital seulement un jour pour faire des examens. On avait dit, c'est vrai, on ne le laissera pas, vous ne voulez pas le laisser, eh bien d'accord, on dira tout de suite à l'hôpital. C'était entendu avec le docteur, mais il allait au moins un jour pour des examens, et juste il est mort. Il est mort la nuit avant. Et quand j'allais avec mon mari pour accompagner justement la famille, le petit garçon à l'hôpital, on l'a trouvé mort. Ouais, ça m'avait fait un choc, c'est vrai, parce que j'ai pleuré parce que c'était normal, j'avais de la peine. Et plus tard, mais bien plus tard, des amis algériens ont dit, bah, tu sais, toi, tu étais la femme qui a pleuré. Et ça, ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient jamais vu une femme française pleurer pour un enfant algérien. C'est grave, hein? Mais ils me l'ont dit longtemps après, quand on était très amis.
Je pense qu'on peut beaucoup apprendre de ces gens.
Ils sont généreux, mais généreux. Ils partagent tout.
Parce que toujours on donne les gens, c'est en Allemagne, les gens, ils disent toujours, ah, les gens qui viennent de cette région-là, ils sont sales, ils sont bêtes. Qu'est-ce qu'ils font, c'est impossible, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent. Mais on peut beaucoup.
Et c'est pas vrai qu'ils sont sales. Cette femme, bon, elle était... D'abord, son mari était méchant, il la frappait. Et puis, elle était malheureuse. Moi, je l'ai vue, avec ce petit, très, très triste. Je l'ai vue, elle, très sale sur elle. Sale, ses vêtements. Mais toujours, elle avait pris une douche le matin ou le soir. Donc c'est quand même pas sale, on peut pas dire que quelqu'un qui se lave tous les jours est sale. Mais il faut comprendre. Mm-hmm. Et puis, ils vivent dans de tellement mauvaises conditions. Mm-hmm.
Par exemple, les femmes vivent avec des hommes qui sont mauvais.
Hein? Oui.
Mais c'est pas bon, mais aussi de ça, on peut apprendre qu'ils restent avec ces hommes.
Oui.
Et ils sont contents et qu'est-ce qu'ils font?
Elles s'acceptent.
Oui,
ils acceptent. Mais c'est leur foi aussi. Ils ont une foi extraordinaire.
Uh-huh.
Une foi en Dieu. Même que nous, chrétiens, nous pourrions critiquer.
Uh-huh.
Parce que tout le malheur qui arrive, c'est Dieu qui veut. Bon, alors, nous, on dit ben non.
Uh-huh.
Et des malheurs qui arrivent, c'est la faute des hommes, et il faut changer parce que c'est la faute des hommes. Mais une partie, c'est quand même comme ça.
Oui.
J'ai beaucoup apprécié moi, l'amitié avec des femmes algériennes. Et malheureusement, dans leur foi, il y a aussi beaucoup de superstitions. Ça, c'est dommage. Superstition, tu sais, c'est croire à des choses qui n'existent pas.
Ah oui.
Alors oui. Mais ce que j'ai compris d'elles ou d'eux, qui me paraît le meilleur, c'est que les femmes en tout cas, elles m'acceptaient différente d'elles. Mais ça ne faisait pas de problème. Et alors moi, la femme française, j'arrivais avec mon auto chez elle. Enfin, tu te rends compte ? Je faisais des commissions quelquefois. Elle me demandait de faire des commissions parce qu'elle ne sortait pas. À la place de leur mari. Bon, j'allais, je venais, mais je ne le faisais pas envie. Moi, je suis comme ça, elles sont comme ça. On ne compare pas. C'est magnifique.
Oui.
Ouais. Hein? Et par rapport aux autos, justement. Peu à peu, chez mon ami, là, chez son mari était un homme très très bien. Puis il a eu une mauvaise période où il a bu. Mais ça, c'est toujours la faute des Français qui entraînent les autres à boire, ça les fait rire. Bon. Il y a eu une très mauvaise période, quelques années très dures. Et puis de nouveau, il a accepté de se faire soigner, de se désintoxiquer et il n'a plus bu. Bon, il y a donc une période un petit peu difficile. Alors, à ce moment-là, justement, elle avait acheté une auto. Et sortait en auto le dimanche. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai entendu sa femme dire « Mais lui, et pourquoi pas nous ?» Le reste de la famille. Mais quand c'était moi qui venais avec mon auto, elle ne se posait pas la question. Des choses très intéressantes. Puis alors des gens qui sont très généreux, qui donnent tout, qui partagent la nourriture, c'est merveilleux.
Et avec les autres, c'était aussi un peu comme une famille.
Ah oui.
Très... Je ne connais pas du tout ces gens, mais qu'est-ce que j'ai
vu. Oui, mais alors, ils vivent un peu, comme on dit, en tribu, c'est-à-dire que c'est quand même la même famille, ou le mari de la sœur, ou les apparentés. Et les autres, non. Autant c'est large pour la famille, mais si c'est plus la famille. Alors moi, j'étais responsable de cours de français à ces gens, et j'étais responsable de beaucoup de cours, et j'en faisais un moi-même, bien sûr. Alors, quand une nouvelle dame arrivait au cours, je la présentais, je disais, bon, c'est madame une telle. Et alors, on se tutoyait au cours en général, mais elle me tutoyait aussi. Ok, voilà, là, je te présente madame une telle, tu la connais? Ah non, elle dit, mais maintenant tu la connais. A. Mais connaître, c'est tout autre chose.
Ah oui.
Mais justement, c'était bien aussi qu'elle fasse connaissance plus loin. Que... Et puis connaître d'autres races, parce qu'après, il y a eu des Portugaises. Mmh. Et en fait, comme ce sont tous des gens qui subissent le racisme, les Français imposent... comment dire, les Français les rejettent pareil, les Français les traitent pareil, et eux, ils subissent. Et bien, ça fait souvent des rapprochements. Oui. Et puis souvent, les mêmes conditions de vie, mal logées, tout ça. Alors, elles se rapprochent, surtout les femmes. Oui. Ce n'est pas très difficile, là. Si elles ne se connaissent pas, il y a une barrière. Et même du racisme aussi. Oh, les Portugaises, elles sont comme ça. Oh, les Tunisiennes, elles sont comme ça. Bon. Mais si elles se connaissent, oui, parce qu'elles voient qu'elles ont les mêmes conditions de vie, les mêmes difficultés.
Et ce ne sont jamais eux, elles qui commencent à parler avec les autres.
Rarement.
Parce que c'était vous qui a parlé avec eux. Elle ne commence pas.
Oui, mais seulement moi, je les ai connues par une. J'ai connu le groupe par celle qui a eu les deux petits-enfants. Là. Parce que ici, nous avons connu le cousin, le frère de.
Ah oui.
Et moi, j'avais très envie de connaître des femmes. Et on a fait connaissance avec. Et on lui a dit, mais tu sais, on aimerait bien connaître ta... Il nous racontait qu'il y avait sa sœur là-bas. Mais tu vois, on serait content de faire connaissance. Mais justement, pas artificiellement. Alors j'ai fait connaissance avec... Et comme elle avait des voisines, j'ai fait connaissance avec... Mais elle parlait un petit peu... Elle s'était dans un village, alors elle parlait un petit peu à la fermière qui habitait à côté quand même. Mais peu, puisqu'elle ne parlait pas français.
Et comment sont les autres gens ici? Ils sont aussi intéressés à faire un peu contact avec les... Ils étaient intéressés à faire contact avec les...
Oui, mais ils ne cherchaient pas.
C'est la même chose.
Oui. Moi, c'est vrai que j'ai cherché, j'ai désiré, j'ai voulu, puis j'ai eu l'occasion.
Et je pensais aussi la seule possibilité pour commencer un contact avec eux, parce qu'ils ne cherchent pas, ils sont aussi isolés.
Bien sûr. Puis quand même, on a eu aussi d'autres occasions, mais on a connu d'une façon moins directe, moins amicale. On connaissait un ami qui était docteur et qui s'est intéressé pendant la guerre d'Algérie déjà à des populations qui vivaient dans des cabanes, dans des bidonvilles. Alors par lui aussi, on a été introduit, parce que eux non plus n'aiment pas que les gens viennent comme ça. Au contraire, ils se ferment. Ah oui, qu'est-ce qu'elle vient faire cette femme chez moi, en fait.
Qu'est-ce qu'elle veut?
Mais même chez cette amie qui est restée mon amie, là, celle dont le mari, je t'expliquais à un moment à dire, le mari, il était considéré un peu comme le grand frère de ses familles, il était bien estimé. Donc un jour où j'allais chez la première que je connaissais, c'est chez... Après la mort de son petit garçon. Je ne l'ai pas trouvée chez elle. Et c'était la première fois que son mari permettait qu'elle aille vers les autres qui habitaient, comme d'ici, même au milieu de la rue, là-bas. Et une voisine française m'a dit, elle m'a dit, je crois qu'elle est dans l'autre famille là-bas. Et moi, tout naturellement, comme j'aurais fait avec une autre amie française, je suis allée frapper à la porte. Bon. La femme m'a parlé. Elle m'a parlé. Et puis, derrière, j'ai parlé à... Et puis, on ne laisse pas quelqu'un sur la porte dans un pays musulman. Elle ne pouvait pas me laisser dehors. Elle m'a dit d'entrer. Donc, j'ai bavardé un petit moment avec elle. Et puis, bien sûr, j'ai dû boire le café parce que l'hospitalité, c'est sacré. Oui. Et puis, le soir, elle a raconté à son mari. Elle a dit, bah, tu sais, il y a une femme qui est venue. Enfin, il me connaissait un petit peu parce que comme le petit était mort, il y avait eu l'enterrement. Et il savait que nous existions, mais on n'avait pas eu le contact direct. Et il a dit à sa femme, qu'est-ce que c'est cette femme qui vient frapper à ma porte? Il était fâché. Parce que j'avais, moi, frappé à sa porte et obligé à ouvrir parce qu'on ne laisse pas quelqu'un devant. Et il nous l'a dit plus tard aussi. Ce n'est pas facile, moi je ne savais pas.
Si on ne connaît pas les...
Si on ne connaît pas les habitudes, c'est difficile. On peut faire des grosses bêtises.
Surtout au début.
On peut manquer, on peut rater une relation. Et puis après, au contraire, j'allais toutes les semaines. C'était toujours chez... J'allais tout de suite chez... C'était là parce qu'elle était aussi la femme la plus solide. Sa famille était la plus solide, la plus belle famille. Et c'était chez elle que les femmes se rassemblaient. Alors, donc j'allais tout naturellement. Puis je crois même que... moi, j'emportais mon tricot. On bavardait, j'emportais mon tricot. Alors, peu à peu, elle me dit, bah, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? J'ai leur appris à tricoter. Tout simplement, en bavardant. Puis, tout le monde avait des petits-enfants. Alors, c'est là qu'ils ont commencé à me dire, et tu vois, maintenant, qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger? Comment je fais? Mais tout doucement, comme ça.
Surtout avec les petits-enfants.
Mais c'est quand moi j'avais décidé que je ne donnerais plus de conseils. Alors elles m'ont demandé.
Et alors, une fois par semaine.
Oui, j'allais régulièrement, tous les mardis. Puis j'emportais mes cours d'arabe et puis je lisais, puis elle me reprenait.
Mais certainement, c'est aussi important qu'on vient très régulièrement. Parce que puis on devient partie de la vie.
Oui, c'est
si
ça.
Chaque mardi,
alors, toujours une avait fait un gâteau, l'autre avait fait du couscous. Je repartais toujours avec quelque chose. Ah oui, c'était très sympathique. Alors, j'en garde un très bon souvenir de ce temps-là. Puis après, j'ai travaillé, alors je n'avais plus le temps d'aller aussi souvent.
C'est dommage.
Oui, c'est dommage. Mais depuis, elles ont appris à parler français quand même, peu à peu, avec les enfants, avec les voisins. Comment dire, elles ont moins besoin de cette présence continue. Mais quand même, quand je reste quelquefois 2 ou 3 mois sans aller voir, elle n'est pas contente. Enfin, plusieurs fois, elle m'a dit, je crois que tu es fâchée. J'ai dit, mais non, jamais. Ah bon, jamais. Alors, ça va.
Et au moment où vous faites aussi quelque chose avec vous,
J'ai fait donc 10 ans les cours et puis 4 ans l'école à des enfants. Et puis, bon, ben, quand il y a eu la grève de la faim, je me suis intéressée, mais puis ici, on est un groupe, on essaie toujours de faire avancer les choses, mais ça n'avance pas vite. Par exemple, demander le droit d'association, parce que les étrangers n'ont pas le droit d'association. Puis quand même au syndicat, j'ai beaucoup des enseignants, je continue à travailler pour l'école, pour demander des classes spéciales pour eux, pour demander... Mais dans, plutôt dans le milieu scolaire. Parce que moi, je veux maintenant, en septembre, j'ai une amie. Et cette amie a une amie qui est dans un groupe latin-américain.
Oui, latino-américain.
Et ils font des informations ils discutent.
J'étais très au courant du problème aussi, les jeunes garçons d'hier.
Et ils ont des livres et ils font des fêtes et tout ça. Et moi, j'aimerais aussi bien aller dans cette coupe. Je veux le commencer en septembre.
Ah oui, c'est intéressant.
Je ne sais pas si je veux y rester, mais je veux voir qu'est-ce qu'ils font. Et si ça me plaît, je veux y aller.
Mais la différence entre les groupes latino-américains et les groupes, par exemple, d'Afrique du Nord, eux sont des réfugiés politiques. Ils sont beaucoup plus, comment dire, dynamiques et actifs. Tandis que les gens d'Afrique du Nord, ce sont des travailleurs immigrés qui ont les situations de travail les plus difficiles, les situations de vie les plus difficiles, tous les problèmes à la fois, et qui ne sont pas reconnus. Et ça, on n'a pas du tout les mêmes, la même relation. Mais il y a même maintenant des populations que je ne connais pas du tout. Il y a maintenant beaucoup de Turcs, je crois, en Allemagne aussi.
Chez nous, on n'a pas du tout les Africains. On a beaucoup de Turcs, des Italiens, des Grecs, comme ça.
Je vais chercher le parasol, hein, parce que ça chauffe un petit peu. Comportement.
Il y a beaucoup, je pense, il y a beaucoup de Turcs et Italiens. Je connais pas du tout. Parce que dans la dans la village où moi j'habite, il n'y a pas du tout des étrangers. Seulement trois, quatre familles, mais pas du tout.
Mais par exemple à Düsseldorf, là, par ailleurs, avec il y en a beaucoup, étant donné que c'est très, très industriel.
Ah oui.
C'est vrai que... Ah, mais tu peux descendre un peu.
Ah, on a des Anglais aussi, à cause des militaires. Mais ils sont aussi très isolés, ils vivent dans un quartier.
Ah oui, ben les militaires en général.
Oui.
C'est bien comme ça. Attends, je crois que tu devras te déplacer un petit peu, s'il te plaît. Okay. Bah, peut-être ici, tiens, regarde. On va débarrasser alors. Mais peut-être que tu veux qu'on cesse de parler un moment. Est-ce que tu veux lire tranquille un petit moment?
Oui, j'ai aussi un livre.
Oui, tu peux prendre la chaise longue aussi, si tu veux. Hein? Allez, oui, ça te reposera aussi parce que c'est fatigant de toujours, de toujours parler. De synthétique mélangé. Le synthétique empêche de coller.
Ah oui.
Mais quand même, je préfère la vraie laine.
Oui, moi aussi. Et moi, j'aime aussi tricoter avec la soie. J'ai un cousin, une cousine, et elle fait l'étude de dessin. Et elle veut acheter la soie très moins cher. Et elle m'a donné la soie et j'ai fait une jupe et des boules verts.
Une jupe et des boules
verts? Oui. Vous avez vu, vous savez encore les boules verts que j'avais la première fois?
Ah oui.
C'était de la soie.
C'était de la soie.
Oui.
C'est beau, c'est comme de matière.
Oui, oui.
Ah, oh, c'est chic ça, dis donc. Ce sont tes cousins du Japon?
Non, non. C'est une cousine, une fille. Ils vivent au sud de l'Allemagne.
Ah bon, et elle a l'occasion d'acheter de la soie.
Oui, et elle doit faire des tissage avec...
Du tissage.
Oui. Et préfère faire ça avec la soie parce que ça devient plus joli.
Ah oui, c'est beau.
Et puis elle a acheté
Et là, j'ai un très grand carton avec la soie. Et puis, c'est moins cher.
Oui, bien sûr, parce qu'elle achète beaucoup à la fois.
Et elle a une armoire pleine de la soie.
C'est vrai?
Oui.
Chouette, ça.
Parce que normalement, c'est cher, là.
Oui, c'est très cher, la soie.
On ne peut pas payer.
Oh. Moi, d'ailleurs, je ne connais pas. Moi, je ne savais pas qu'on puisse acheter de la soie pour tricoter.
C'est là que la soie que moi j'ai, c'est sur les petits rôles. C'est comme vous avez là pour sur les bobines. Mais on peut aussi acheter la soie naturelle. C'est la soie que la couleur est naturelle.
Naturelle, oui.
C'est très cher.
Oui, en français on dit la soie grège.
Grège, hein.
Ça veut dire qu'elle n'est pas traitée.
Oui, c'est ça.
Et alors, après, c'est devenu le nom d'une couleur. Tu vois, quelquefois on dit j'ai acheté de la laine grège. Ça veut dire de la couleur de cette soie.
Ah oui.
C'est beau ça.
Et au moment, je fais une veste.
En ce moment,
je fais une veste.
Tu fais une veste.
Oui.
En soie aussi?
Oui, parce que j'ai fait une jupe. C'est violet.
Oui.
Une sorte de violet.
Oui.
Et un pull vert. Ce sont trois couleurs, mais aussi trois violettes différentes.
Oui.
Et maintenant, je fais encore. Ce sont des
rangs, bandes.
Des bandes. Et je fais là. Et la jupe, c'est seulement une couleur.
Oui. Oui.
Et la veste, c'est avec des ranges ici. Oui. Mais le dos et les manches, ils sont unis.
Une seule couleur.
Oui.
Mais je me souviens des faits qu'on pouvait faire.
J'aime aussi tricoter à l'école pendant les repas. Pas repas, comment est-ce qu'on appelle?
Oui, l'interclasse.
Oui.
L'interclasse.
Ou pendant différents cours, je peux tricoter. Si on regarde un film ou si on discute. Hein.
Ah.
Aussi avant les vacances, ce sont toujours des cours où on discute un peu, on ne fait rien, et puis je tricote. Et...
Ah oui, voilà, je ne garde pas tant de temps. Aussi en Allemagne, il y a des cours avant les vacances où
on ne fait rien. C'est fatigant, parce que chaque cours, on ne fait rien, mais il faut y être.
Et ça dure combien de temps? Plusieurs jours.
Ah oui, deux semaines à peu près.
Oh, chez vous
c'est différent. Il y a des professeurs qui font encore quelque chose que moi j'aime bien parce que puis le temps va
le
plus
passe
vite,
mieux,
passe mieux.
Des cours structurés.
Oui.
Ah,
mais les...
en France, c'est pareil.
Les notes sont déjà fixées et
chacun
pense qu'il ne faut pas plus faire quelque chose. Et c'est terrible.
D'accord.
C'est fatigant.
Oui, on s'ennuie finalement.
Oui.
Une fois c'est bien, mais quand ça dure toute la journée, toute la matinée, ce n'est pas bon.
Avant les vacances en hiver, c'est avant Noël.
Oui.
On mange le gâteau et le biscuit. Et on lit des histoires, mais c'est aussi chaque cours.
Chaque cours, c'est la même chose.
Regarde un film, c'est encore très intéressant.
Mais un film qui est quand même en relation avec votre travail, non?
Ah, ça dépend.
Ça dépend, pas toujours.
Oui. Non, pas toujours.
Et qui présente ce film? Le professeur?
Oui. On a des appareils, c'est bon.
Oui.
Ou on regarde des photos. c'est aussi très intéressant de temps en temps.
Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps.
Ah oui.
C'est sûr. Ah, je ne pensais pas qu'en Allemagne on faisait ça. Je croyais que c'était plus sérieux.
Non, non. De temps en temps, c'est aussi pendant l'année que le professeur il n'aime pas bien faire quelque chose et on discute un peu pendant un cours, oh, ça va. Mais pas si c'est toujours.
Un petit peu, c'est bien, mais
pas oui. Ou de temps en temps, s'il y a un sujet très actuel.
Ah oui.
Quelque chose qui s'agirait dans le monde et on discute, j'aime bien.
Oui.
Parce que c'est aussi important.
Ça, c'est important.
Et puis, si le professeur prend le temps pour discuter, je trouve que c'est bien.
Puis on fait mieux connaissance avec lui aussi.
Oui.
Comme ça, on connaît un peu son opinion.
Oui.
En France, ce n'est pas bien vu que le professeur s'exprime. Que le professeur exprime ses opinions. Moi, je pense qu'il y a une façon de le faire qui est quand même respectueuse des élèves et qui peut être très bénéfique parce que s'il dit ce qu'il pense, il n'oblige pas à penser comme lui, il ne me dit pas moi ce que je pense c'est bien et toi ce que tu penses c'est mal. Il y a une façon de le faire.
Oui. Mais chez nous, il y a toujours des élèves qui se moquent si le professeur dit son opinion et qui n'aime bien et parce que je pense parce qu'il pense qu'il doit avoir la même opinion pour avoir un bon note. C'est pas vrai, mais il le pense et il se moque de ça.
Oui. Et il le pense aussi.
Le professeur?
Oui.
Non.
Il pense. Non, les élèves pensent.
Oui. J'aime bien aussi le professeur dit son opinion et
il me semble que j'aimerais bien.
Et ça, c'est plus facile pour comprendre le professeur, ses habitudes, si on connaît son opinion.
Moi, je me souviens d'un professeur de français quand j'étais l'année d'avant le baccalauréat. Bon, il n'avait pas du tout les mêmes opinions que moi, si je peux dire, les opinions que j'avais. Mais finalement, nous aimions beaucoup quand il s'exprime. Parce que au moins, on pouvait discuter un peu d'égal à égal.
Et si on peut expliquer son opinion.
Intéressant. Mais en France, il y a des professeurs qui le font. Mais l'idée de la laïcité est fausse, enfin, à mon avis, elle est fausse. Parce que c'est d'abord la laïcité religieuse, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de religion. Je trouve que ce n'est pas bon. La laïcité, c'est en religion ou en politique, ça devrait être, on exprime des idées, mais on n'affirme pas que les unes sont meilleures que les autres. Au contraire, on essaie d'exposer des idées différentes et de montrer les différences et que les jeunes eux-mêmes discutent pour chercher quelle est la moins mauvaise ou quelle est. Mais alors, on n'en parle pas. Donc, il y a quand même des professeurs d'histoire qui disent.